apparemment c'est une insistance pour des raisons diverses et valables.
Ce que j'ai essayé de faire pour nous proposer des points de discussion et pour nourrir le débat, mais c'est une proposition, c'était de réfléchir à la manière dont on pouvait traverser les interventions qui ont eu lieu ici et la manière dont on pouvait traverser les interventions à partir d'actes qui me semblent structurer le débat sur la possibilité d'un renouveau de la gauche ou en tout cas d'un renouveau d'un type de pensée qui pourrait se substituer à ce qu'on a appelé historiquement la gauche. Il me semble que dans les interventions, aussi bien dans celle de Tony de départ, qui avait des aspects plus techniques, plus juridiques, que dans la séance qu'on avait faite avec Mathieu Pot-Bonneville sur Foucault, et dans la dernière sur Marx avec Laval Dardot et Elmoud, il me semble qu'il y avait deux points au moins qui méritaient qu'on en reparle, et qui me semblaient centraux. Le premier point, c'est le rapport à l'histoire sous l'espèce de l'historicité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que s'inscrire dans l'histoire et qu'est-ce que c'est qu'inscrire sa pensée, sa pratique, son expérience, le témoignage d'une injustice, l'expérience de l'indignation, des luttes collectives, de la conflictualité. Qu'est-ce que c'est qu'inscrire tout ça dans l'histoire? Qu'est-ce que c'est que historiciser ces systèmes de pensée et ces pratiques, mais aussi ces pratiques de pensée en réalité aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est le rapport au sujet sous l'aspect spécifique de ce qu'on a tendance à appeler à partir de Foucault, mais qui mériterait la peine d'être formulé de plus précise, les processus de subjectivation. Qu'est-ce que c'est que rendre compte aujourd'hui de la manière dont émergent de nouvelles subjectivités, c'est-à-dire non seulement de rendre compte des conditions de possibilité de cette émergence, mais des modalités dans lesquelles ou sous lesquelles elles se donnent, etc., etc. Alors très brièvement, puisque je voudrais simplement intervenir 5 minutes sur ces deux choses. Je pense que dans le premier cas, c'est-à-dire rapport à l'histoire, historicisation, etc., etc., il y a clairement deux écueils. Le premier écueil, il est moins visible quand on a parlé du rapport à Foucault, il est beaucoup plus visible quand on a parlé du rapport à Marx, c'est l'écueil qui consiste à maintenir une conception à la fois, alors en vrac, téléologique, dialectique, positiviste, progressiste, scientiste, etc., etc., de l'histoire, qui justifierait par avance ou a priori du sens, c'est-à-dire à la fois du télos et de la signification d'une histoire qu'on n'interrogerait jamais en tant que telle. Et ça, c'est probablement le sens le plus évident, même si finalement la critique de Laval, Dardot et Mood était assez violente à l'égard non pas de Marx mais des marxismes, ça c'est moi qui le dis, mais en réalité quand on lit leurs livres aussi, une critique interne à la pensée même de Marx. Et là, je pense que c'est vrai qu'on en rediscute. Il y a un deuxième, moi, je crois, écueil à éviter qui me semble aujourd'hui plus grave. J'ai dit aujourd'hui plus grave parce que ce n'est pas seulement un problème d'orthodoxie ou de critique interne à la pensée d'un auteur, et ça touche un certain nombre de démarches qui sont des démarches qui nous sont théoriquement, politiquement, philosophiquement proches. Ce second écueil, c'est une démarche qui consisterait à la fois à se reconnaître dans des pensées dans lesquelles on puise tous, et là pour le coup je pense spécifiquement à la pensée de Foucault, et en même temps à étendre les catégories foucauldiennes, les problématisations foucauldiennes, les champs d'enquête foucauldiens, à les étaler, pour ainsi dire, dans une histoire qui n'aurait plus d'historicité. Alors là aussi, je pense que c'est quelque chose avec quoi la gauche, si je pensais encore une fois qu'on appelait ça encore la gauche, doit faire des comptes. Je vous donne un exemple de cela. Il est évident que nous avons affaire aujourd'hui à renouveler au moins en partie une analyse, une description, une critique et une réouverture de conflictualité par rapport à ce qu'on appelle de manière extrêmement vague des rapports de pouvoir. Et je dis volontairement rapport de pouvoir au pluriel parce que le pouvoir n'est pas une chose mais une série de réalités ou d'expériences. C'est la thèse Foucault. Pas de pouvoir avec un P majuscule, mais des rapports de pouvoir situés dans l'histoire, déterminés par des facteurs économiques, sociologiques, démographiques, politiques, bien entendu, etc., etc. et jusque-là, pas de problème. Que se passe-t-il lorsque on utilise des mots qui sont censés dire un état des rapports de pouvoir à un moment donné? J'en prends un au hasard qu'on a beaucoup prononcé ici, par exemple biopouvoir, et qu'on utilise ce mot pour analyser des réalités qui couvrent aussi bien le Moyen-Âge que l'époque moderne, le 19e siècle que les années 30, la Seconde Guerre mondiale et de manière spécifique les camps de concentration nazis et d'extermination, la Shoah, et ce qui se passe aujourd'hui dans la gestion, dans la subordination, dans l'exploitation du travail précaire. Que se passe-t-il lorsqu'on prétend finalement lire derrière des rapports de pouvoir et au nom d'une indignation qui est bien évidemment vraie et sincère, lorsque donc on décrit toute une série de phénomènes au nom de rapports de pouvoir qui supposent derrière eux, ou en deçà d'eux, quelque chose comme une matrice commune. Je vous le pose de manière plus directe encore. Que se passe-t-il lorsqu'on reconnaît partout, indépendamment du contexte historique auquel on se réfère, lorsqu'on reconnaît par, et géographique d'ailleurs auquel on se réfère, que se passe-t-il lorsque on reconnaît partout quelque chose que l'on nommerait, sans plus de détails, souveraineté? Il me semble que ce type de discours-là, qui est historiquement un discours de gauche, dénoncer les effets de souveraineté, dénoncer la prétention de la souveraineté à légiférer, par exemple, sans interroger la périodisation, sans interroger le contexte dans lequel cela s'inscrit, sans interroger les technologies de pouvoir, les corps ou les âmes sur lesquelles cela s'inscrit, sans interroger aussi la rationalité politique que cela suppose, sans interroger le but, c'est-à-dire la plus-value d'un exercice de pouvoir, et de quelle nature est cette plus-value, que se passe-t-il lorsque on néglige tout cela, c'est-à-dire que finalement, que se passe-t-il lorsque on déshistoricise, pardonnez le néologisme, on reconstruit à l'intérieur même d'une pensée historique des franges ou des marges de non-historicité. Que se passe-t-il lorsque finalement on recommence à faire de la métaphysique? Alors là, moi je vous lance des pistes qui sont des pistes de provocation. Il me semble qu'il serait intéressant par exemple de convoquer un certain nombre d'auteurs qui font partie d'un bagage souvent commun, en tout cas des gens qui font séminaire, mais sans doute aussi des gens qui écoutent et participent à ce séminaire. Je pense en particulier aux travaux de Agamben, mais pas seulement. Je pense aussi en partie à l'intervention, par ailleurs tout à fait passionnante, de Mathieu Pott-Bonneville sur Foucault en posture sceptique. Foucault, le philosophe qui suspend son jugement et se met, pour ainsi dire, en retrait de l'histoire qu'il décrit. Que se passe-t-il lorsqu'on en arrive là, et est-ce qu'il est possible sur ce type de pensée de construire de la politique ou du politique? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur ce rapport à l'historicité, au-delà de ces deux écueils plus ou moins évidents, elle est très simple. Il me semble que éviter ces deux écueils, ça veut dire automatiquement introduire de la périodisation. Introduire de la périodisation dans le continuum ou le pseudo-continuum dont nous ont nourri les grands récits de la mythologie blanche, c'est-à-dire cette espèce de prétention à la linéarité au continuum philosophique et historique. Introduire la périodisation, faites attention, ça ne veut pas dire simplement une posture de pensée, ça veut dire découper très précisément en fonction d'un état de force, d'un rapport de force, des bornes qui marquent ou qui rendent visible l'émergence de technologies de pouvoir et l'émergence contemporaine liée, un peu comme le recto et le verso d'une feuille, de pratiques ou de stratégies de résistance. Alors, la question que moi j'aurais envie de nous poser, puisque je m'inclus dans l'eau et je ne sais pas y répondre, c'est à quelle périodisation appartenons-nous? Il me semble qu'on ne peut pas aujourd'hui poser le problème d'une pensée critique, appelons-la comme ça, au lieu de l'appeler pensée de gauche, sans poser le problème de la périodisation. Et cette périodisation, elle implique en réalité une autre chose qui mérite d'être pensée et qui n'est pas simple à penser du point de vue politique, et qui est le problème de la discontinuité. Si vous faites attention au discours politique aujourd'hui, à droite comme à gauche, je pense en particulier au discours de Sarkozy, mais je pense aussi au discours socialiste durant toute la campagne présidentielle, et encore aujourd'hui pour autant qu'on en entende de temps en temps des discours, puisqu'on entend plutôt le grand silence assourdissant qui les caractérise. Si on reprend les discours des campagnes présidentielles des uns et des autres, ce qui est extrêmement frappant, c'est la permanence sous des apparences différentes et des radicalités différentes et des provocations différentes, mais la permanence à droite comme à gauche d'un discours qui est un discours d'appel à la rupture, la promesse de la rupture. Et en même temps, cette promesse de rupture, pensez au discours de Sarkozy sur à partir de maintenant ça va changer, etc., etc., cette promesse de rupture, elle est là pour masquer la formidable continuité, la formidable réinscription de ce qui a toujours existé, c'est-à-dire les catégories modernes du politique, exacerbées, rendues caricaturales et poussées à l'extrême. Qu'est-ce que c'est contre cela aujourd'hui que d'affirmer de la discontinuité ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aussi faire l'hypothèse ou le pari, l'hypothèse si on est un peu pessimiste et le pari si on est un peu optimiste, que les catégories politiques de la modernité ne sont plus les instruments qui nous permettent aujourd'hui de décrire l'existant, de critiquer cet existant et de proposer des ouvertures de résistance à cet état de fait. Cette hypothèse de discontinuité, elle implique trois choses, je crois. Elle implique, toujours dans le projet d'un renouveau du discours critique, un travail de cartographie, c'est-à-dire un travail de diagnostic du présent, ce qui existe, et seulement à partir de là, un travail de, Foucault dirait, franchissement possible, c'est-à-dire d'ouverture de possible, de marquage de différence. Et c'est précisément sur ce risque-là, en finir avec quelque chose qui ne fonctionne plus, en finir avec des grilles qui sont inadéquates et dont on nous fait croire qu'elles existent encore. C'est donc à partir de cet en finir avec qu'il me semble possible de renouveler le discours. Alors, le deuxième point que je voulais souligner, mais ça va être trop long, donc je vous le jette en pâture et puis on en rediscute, c'est le thème des subjectivités. Je crois que ce qui se passe sur les subjectivités, ce qui émergeait des trois séances, des trois premières séances de séminaire à propos des subjectivités, c'était exactement du même ordre, à savoir toute une tradition, en particulier une tradition marxiste, mais pas seulement, nous a en réalité habitués à considérer que ce qu'il y avait à penser, c'était une temporalité des luttes, qui en réalité n'était pas si problématique que ça, parce qu'elles s'inscrivaient à leur tour dans une histoire qui était elle-même dialectique et orientée. Mais que le problème de la temporalité, qu'est-ce qui arrive et quand, un peu plus tôt ou un peu plus tard, à quel moment, était finalement la seule question réelle que posait le devenir révolutionnaire. Ça supposait donc que le télos était acquis, et ça supposait aussi que les sujets de ce processus étaient acquis, construits. Il me semble que dans la reprise d'un discours de gauche ou d'un discours critique, et dans la mise en danger volontaire des catégories qui ont été les nôtres et qui vraiment ne sont plus, en tout cas ne sont plus les miennes, l'idée du sujet révolutionnaire est entièrement à repenser. Nous ne savons plus aujourd'hui ce que peut être un sujet collectif révolutionnaire. Et pour le dire de manière plus banale encore, nous ne savons plus aujourd'hui ce que peut être une subjectivité collective en général et pas seulement révolutionnaire. Quels sont les acteurs aujourd'hui qui interviennent sur la scène du politique? Pensez à ce qui se passe aujourd'hui dans les universités. On est plusieurs à enseigner à l'université. Il est extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe. Ça le voit extrêmement décevant. Ça produit peu, en tout cas peu de discours, et de manière assez complexe. Et il est pourtant symptomatique de constater que, étrangement, ce mouvement qui était soufflé dès sa naissance, et qui ne cesse pas de finir de s'essouffler, et pourtant qui ne cesse pas de continuer, et dont on dit chaque jour qu'il est arrivé à son dernier jour, ce mouvement, depuis 15 jours, dans certains sites, en particulier dans les sites parisiens, mais pas seulement, semble reprendre du poil de la bête, et semble reprendre du poil de la bête précisément au moment où les organisations syndicales étudiantes quittent le navire. Quelle est la nature de ces sujets politiques ? Est-ce qu'ils sont étudiants ? Est-ce qu'ils sont étudiants et futurs précaires ? Est-ce qu'ils sont des consommateurs de savoir au même titre que les travailleurs du savoir ? Ils ont certainement un rapport au savoir et un rapport au savoir qu'ils ne veulent pas réduire à quelque chose qui est de l'ordre du marché. Mais qu'est-ce qui lie ces étudiants à toutes les figures de la sous-précarité ou du sous-prolétariat de l'économie cognitive, par exemple. La difficulté à identifier ces subjectivités-là, c'est un problème qu'il faut réussir à penser, à formuler, et ça implique aussi d'autres catégories. Alors, je viens de parler du savoir, je crois qu'au croisement de ces deux thèmes, le problème de l'historicité, c'est-à-dire le problème de la périodisation et le problème de la discontinuité d'une part, et le problème des nouvelles subjectivités, en particulier la transversalité des nouvelles subjectivités, la difficulté que nous avons aujourd'hui à dire ce que ces subjectivités sont, au croisement de ces deux axes, il y a un thème que nous n'avons étrangement pas ou très peu abordé depuis le début du séminaire, et qui, je pense que c'est pas un hasard, est au centre des deux interventions de janvier, c'est-à-dire celle de Cassel et celle de Botanski. Cassel sur le travail et Botanski sur les intellectuels. Cet entrecroisement, ou le point commun de Cassel et Botanski, c'est le thème du savoir. Je crois qu'au centre des luttes, ou des expériences de l'actualité, ou des pratiques de résistance, ou la production, qu'elle soit de conflictualité ou de savoir ou de valeur du point de vue économique, il y a encore et toujours le thème du savoir. Et ce thème du savoir qui finalement acquiert dans cette espèce de cartographie schématique et un peu hasardeuse que j'essaie de faire, non pas une centralité parce que c'est pas une structure de centre-périphérie, mais une sorte de d'omniprésence réticulaire. Ce thème du savoir, je pense qu'il est fondamental. Non pas comme un luxe dans un discours politique qui s'occuperait de choses matérielles, sérieuses et difficiles comme celle de la production au sens fordiste, mais comme un objet central et de l'économie, et de la description de l'économie politique, et de la description des résistances possibles.
Merci. Thank you.